Merci d'écouter Radio France Internationale. 9h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi.
Et nous sommes sur le continent américain pour la dernière partie d'RFI Midi. Alors qu'une semaine cruciale approche pour Haïti aux Nations Unies et avec les partenaires du pays, notamment américains, nous entendrons tout à l'heure le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'est une exclusivité au micro de RFI et en français. Il explique pourquoi il ne veut pas transformer la mission d'appui à la sécurité en mission de l'ONU. Ce qu'il faut surtout, c'est de l'argent pour financer cette mission. Entretien dans quelques minutes. On fera le point, bien sûr, sur la campagne électorale aux États-Unis dans notre revue de presse et sur l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, puisque les commerçants ont participé à leur manière aux protestations contre la vie chère en Martinique.
Commerçants de Fort-de-France, plus de 80% d'entre eux ont baissé le rideau. Ils se disent, eux aussi, victimes de la flambée des prix. À suivre, reportage de nos confrères de la Première Martinique.
À tout à l'heure.
RFI à Cayenne. 98.7 FM.
Et tout de suite, c'est le journal de Charlotte Hydrak. Charlotte, bombardements israéliens d'un côté, tirs de roquettes du Hezbollah de l'autre, la crainte d'une escalade après l'attaque au beeper et au talkie-walkie qui a visé le mouvement chiite libanais cette semaine.
D'ailleurs, l'armée israélienne à l'instant annonce avoir mené une frappe ciblée sur Beyrouth, la capitale libanaise. Dans un discours à la télévision hier soir, le chef du Hezbollah, lui, a reconnu un coup sans précédent et promis des représailles, un terrible châtiment, je cite. Cette attaque inédite, spectaculaire, a fait 37 morts, près de 3000 blessés. Alors comment ces beepers ont-ils été piégés? Par qui et où? Même si tous les regards se tournent vers Israël, l'État hébreu n'a pas fait de commentaire. Ces appareils, ces beepers sont produits par une société de Taïwan, Gold Apollo, qui elle-même travaille avec une entreprise basée en Hongrie, Back Consulting. Les sièges de ces deux structures ont été fouillés à Taïwan, Jules Bois.
Le dirigeant de l'entreprise taïwanaise continue de l'affirmer. Il a bien autorisé Back Consulting à utiliser sa marque pour distribuer ses produits, mais dément toujours toute responsabilité dans la conception et la fabrication des beepers piégés. Selon lui, les beepers du Hezbollah sont complètement différents de ses propres modèles et il accuse son partenaire commercial de les avoir fabriqués indépendamment. Le modèle de beeper retrouvé au Liban était pourtant bien visible sur le site de Gold Apollo il y a encore quelques jours, mais a été retiré depuis. Il affirme également ne s'être douté de rien, mais se rappelle qu'un paiement de l'entreprise Back Consulting avait été bloqué par sa banque parce qu'émis par une banque du Moyen-Orient sans pour autant s'être alarmé. De son côté, le ministère des Affaires économiques taïwanais affirme n'avoir aucune trace d'entreprise taïwanaise ayant exporté des beepers directement au Liban ces deux dernières années. Jules Bois, Taipei, RFI.
35 milliards d'euros de prêts à l'Ukraine, annonce d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en visite aujourd'hui à Kiev. Ce prêt, il sera financé par les avoirs russes gelés en Europe. Il servira notamment à faire face à l'hiver, cette saison attendue avec inquiétude, sachant que les installations énergétiques du pays ont été dévastées par les frappes russes. Mais ce qu'attend surtout le président ukrainien, c'est un feu vert des Occidentaux pour utiliser les missiles longue portée contre la Russie. Volodymyr Zelensky dit espérer que le président américain Joe Biden soutiendra le plan qu'il lui soumettra la semaine prochaine à Washington.
Les États-Unis en pleine campagne pour la présidentielle de novembre et cette polémique autour du républicain Mark Robinson.
Candidat au poste de gouverneur dans l'État de Caroline du Nord, c'est un État particulièrement disputé. Mark Robinson, soutenu par Donald Trump et rattrapé par des propos choquant, on peut le dire, Carlotta Morteo. Il s'est notamment revendiqué de nazi noir.
Oui, alors on découvre que cet ultra-conservateur afro-américain, déjà connu pour sa promotion de théories conspirationnistes, climato-sceptiques et ses commentaires homophobes ou antisémites, s'est aussi prononcé pour le rétablissement de l'esclavage. Je cite, « Certaines personnes méritent d'être esclaves, j'en achèterais bien quelques-uns ». C'est le genre de propos mis en évidence par une enquête accablante de la chaîne télévisée CNN qui est allée rechercher tous les messages postés par Mark Robinson sous le pseudonyme Mini Soldier il y a une dizaine d'années. Il fréquentait alors plusieurs sites pornographiques où il a fait part de ses opinions politiques. À choisir, écrivait-il, je voterai pour Hitler plutôt qu'Obama. Il s'est penché aussi sur ses fantasmes sexuels, sur des jeunes filles mineures et sur des personnes trans, alors même qu'il ne cesse de dénoncer les droits transgenres. Mark Robinson nie être l'auteur de ces messages. Ses chances face au candidat démocrate Josh Stein sont en net recul dans les sondages, mais il ne se retire pas de la course pour le poste de gouverneur de la Caroline Caroline du Nord, un État clé pour gagner les présidentielles américaines. Donald Trump l'avait emporté de justesse il y a 4 ans.
Carlotta Morteo et Kamala Harris, elle a bénéficié d'une grosse visibilité hier, invitée sur un plateau de gala par l'animatrice vedette Oprah Winfrey, avec une brochette d'invités stars. L'heure des derniers ajustements en France avant l'annonce du nouveau gouvernement de Michel Barnier, ce ne sera pas pour aujourd'hui, selon Matignon, mais ce sera avant dimanche. Donc encore un peu de patience. On sait déjà en tout cas qu'il y aura 38 ministres, notamment issus de la droite et du centre. Un certain nombre de noms ont circulé. Par exemple, Bruno Retailleau et Laurence Garnier, représentants de la droite conservatrice. Sébastien Lecornu resterait ministre des Armées. Rachida Dati resterait à la Culture. Rien d'officiel encore, Victorien Villot. Mais en tout cas, ce possible casting est déjà critiqué à gauche.
Oui, ce nouveau gouvernement, c'est l'alliance des perdants. Ça, c'est une phrase de la députée écologiste Sandrine Rousseau, Charlotte, et ça résume bien la tonalité générale depuis hier à gauche. Pourquoi y a-t-il eu une dissolution si c'est pour avoir à peu près les mêmes, se demande pour sa part l'ancien président François Hollande, quand la députée insoumise Mathilde Panot, de son côté, dénonce une extrême droitisation de la Macronie. Et s'il y a bien un nom qui crispe particulièrement dans les rangs de la gauche, Charlotte, c'est celui de Laurence Garnier. Opposée au mariage homosexuel, opposée à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, la sénatrice Les Républicains figurait sur la liste présentée jeudi soir et hier soir. Donc sa nomination serait une provocation, dit le député socialiste Jérôme Guedje. Rappelons que la gauche réunie au sein du nouveau Front Populaire a refusé de participer au gouvernement Barnier. La coalition ambitionne d'ailleurs de censurer le futur gouvernement dès les premiers jours de la législature, au début du mois d'octobre donc.
Victorien Villaume, donc rendez-vous peut-être demain.
Suspense encore.
À Paris, Londres, mais aussi en Italie, en Malaisie, aux États-Unis, des témoignages du monde entier qui visent Mohamed Al-Fayed, le défunt homme d'affaires égyptien propriétaire du magasin de luxe Harrods dans la capitale britannique. Il est accusé de violences sexuelles par 37 femmes pour l'instant, selon leurs avocats.
Au Royaume-Uni encore, les ambitions de Nigel Farage.
Le leader du parti Reform UK, parti anti-migrants, anti-Europe, qui a lancé aujourd'hui une conférence pour élargir son électorat. Ça se passe à Birmingham, au nord de l'Angleterre. En juillet, lors des élections générales, Reform UK avait obtenu 14% des voix, 5 députés au Parlement, une première. Et le parti compte bien continuer sur cette lancée, Sarah Menei.
C'est une conférence qui doit, selon Nigel Farage, marquer le passage à l'âge adulte du parti. Critiqué pour son image de parti d'extrême droite et pour les commentaires xénophobes de certains de ses candidats pendant les élections législatives au début de l'été, Nigel Farage avait promis de professionnaliser Reform UK pour qu'il devienne le principal parti d'opposition dans 5 ans. Alors pour tenir sa promesse, le chef du parti sait qu'il doit redorer son image, entamer une banalisation de Reform UK dans la vie politique britannique, une dédiabolisation qui commence donc dès aujourd'hui à Birmingham. Le parti qui revendique plus de 70 000 membres estime que la conférence de cette année est la plus importante jamais organisée, avec des ventes de billets plus de 4 fois supérieures à celles de l'an dernier. Cet après-midi à Birmingham, les 5 députés de Reform UK prendront chacun la parole avant que Nigel Farage ne prononce son discours principal en fin d'après-midi, un discours dans lequel il lancera, dit-il, un appel au changement. Sarah Menei, Londres, RFI.
Et puis une passagère clandestine qui a obligé un avion à se poser en Norvège. La compagnie SAS a dû faire un atterrissage impromptu après la découverte d'une souris. Apparemment, elle était sortie du repas d'une passagère. Bon appétit, un incident extrêmement rare selon le porte-parole de la compagnie. Au final, les passagers sont bien arrivés à bon port à bord d'un autre avion et l'histoire ne dit pas ce qu'est devenue la fameuse petite souris.
On ne sait pas non plus ce qui est arrivé aux autres plateaux repas. On espère qu'ils ont été retirés. Merci Charlotte Hydrac. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes. Dernière partie d'RFI Midi et d'abord en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
100 jours au pouvoir pour Garry Conille, 100 jours et un premier bilan pour le Premier ministre de transition. Pour l'occasion, la primature a publié un long film pour présenter les mesures mises en place depuis le 12 juin dernier. Des réalisations vantées par Garry Conille qui commencent tout de même par un état des lieux très sombre. Et ce constat, l'effondrement de l'État en Haïti.
Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés, de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire. La vérité que Haïti a subi au cours de la dernière décennie, un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénouées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population.
Le message du Premier ministre haïtien de transition, la presse aussi, revient sur ce bilan des 100 jours. Vous l'avez lu pour nous, Abla Jounaïdi. Les journaux reviennent sur les progrès donc soulignés par Gary Conny.
Oui, en une, le Nouvelliste fait un résumé du documentaire de près de 2 heures. Gary Conny y a insisté d'abord sur les efforts qui ont permis, d'après lui, la formation d'un gouvernement en un temps record, avec un pourcentage de plus de 35% de femmes. Satisfait également sur la mise en place d'une feuille de route pour chaque ministère aligné sur les priorités de l'accord du 3 avril, l'adoption d'un budget rectificatif axé sur le social et la sécurité et des programmes d'urgence financés par le FMI, résume le quotidien.
Gary Conny s'est aussi félicité hier des enquêtes et des audits initiés dans plusieurs ministères.
Oui, alors que les scandales se sont accumulés dernièrement, le Premier ministre a insisté sur les mesures pour lutter contre la corruption. Autre priorité listée par Gary Conny, les élections, avec le projet d'engager un expert pouvant aider à faire l'inventaire des besoins du Conseil électoral. Enfin, Gary Conny évoque ce plan d'investissement de 2,2 milliards de dollars sur 2 ans, établi avec les partenaires internationaux, relaie encore le Nouvelliste.
Les partenaires internationaux qui seront très présents dans les jours à venir. Haïti sera l'un des dossiers majeurs de l'Assemblée générale des Nations unies et de ce que l'on appelle la semaine de haut niveau qui débute dimanche. Une question remise sur le tapis par le porte-parole du secrétaire d'État américain hier. Faut-il transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en mission de l'ONU ? Pour le secrétaire général des Nations Unies, c'est très clair, la réponse est non. Il l'a dit en exclusivité à RFI, au micro de notre correspondante à New York. Et il en a profité pour faire une petite piqûre de rappel concernant le financement. Parce que pour l'instant, 6 pays seulement ont contribué à hauteur de 68 millions de dollars. C'est très loin des fonds nécessaires pour lutter efficacement contre les gangs. Bref, pour Antonio Gutiérrez, le nœud du problème, ça n'est pas le statut de la mission. Écoutez-le au micro de Carrie Noton, notre correspondante à New York.
Que l'idée d'Anthony Blinken soit du bluff pour convaincre d'autres pays d'abonder au fonds finançant la MMAS, ou qu'elle soit fondée, c'est une perte de temps qui coûte cher pour le patron de l'ONU. Antonio Guterres s'est montré particulièrement meurtri sur le dossier Haïti lors de sa traditionnelle conférence de presse.
Ce qui est souhaitable, c'est que les pays puissent regarder Haïti comme une tragédie humaine qui se prolonge avec une histoire qui est bien connue et où il y a beaucoup de responsabilités pendant plus d'un siècle. Ce qui est souhaitable, c'est que des pays assument la responsabilité de financer proprement l'opération qui est en cours. Je dois dire que pour moi, c'est absolument incompréhensible quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent. S'il y a une banque très proche d'ici qui est en train d'être en risque de faillite, il y aura probablement une mobilisation de milliards et milliards pour sauver la banque. Quand on décrit les guerres, il y a des milliards et des milliards toujours disponibles pour ce qu'il faut. Et pour une petite opération en Haïti, où il nous faut quelques centaines de millions de dollars pour garantir la présence de cette opération, il n'y a pas d'argent. Ça, je n'accepte pas. Et après, on dit, comme il n'y a pas d'argent, mettons une opération de maintien de la paix, parce que là, il y a des contributions obligatoires. Je dois vous dire, pour moi, il y a une question morale. Si le Conseil de sécurité et le gouvernement haïtien sont d'accord que parce qu'il n'y a pas aucune autre solution, nous sommes prêts à travailler d'accord avec les instructions du Conseil de sécurité. Mais je dois dire que c'est un peu difficile de comprendre qu'on puisse discuter une opération de maintien de la paix là où il n'y a pas de paix à maintenir, seulement parce que, apparemment, c'est pas possible de trouver l'argent nécessaire pour une des situations humanitaires plus désastreuses dans le monde. Ça, pour vous parler en toute franchise, ça c'est quelque chose que je sens très fortement.
Mais est-ce que ce sera efficace, une mission de maintien de la paix en Haïti? Si les policiers de l'ONU ne peuvent pas faire de l'anti-gang, est-ce que c'est une vraie solution?
Comme je vous ai dit, nous sommes prêts à faire tout ce que le Conseil de sécurité, avec l'accord du gouvernement haïtien, puisse nous demander. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas une opinion sur ce qui se passe en Haïti.
En des mots à peine voilés, donc, Antonio Guterres ne pense pas que réfléchir déjà à transformer la MMAS en opération de maintien de la paix soit la solution la plus optimale. Par ailleurs, il a pris note hier de la nomination de 7 des 9 membres du Conseil électoral provisoire, qui devra représenter les différentes factions de la société haïtienne. Il encourage maintenant les organisations des droits humains et des droits des femmes à désigner leurs candidats pour que le Conseil soit totalement opérationnel. Karine Auton, New York, RFI.
À New York, il est 9h15.
Anne Contner.
L'actualité du continent américain, c'est aussi bien sûr la campagne pour la présidentielle du 5 novembre aux États-Unis, avec le show Kamala Harris hier. À Plage Unaïdi, la candidate démocrate était face à la célèbre Oprah Winfrey, présentatrice noire très influente aux États-Unis.
Oui, le studio faisait penser à celui de l'Oprah Winfrey Show. En fait, on a eu droit à un publi-reportage de 90 minutes, résume USA Today. C'est vrai que l'événement baptisé Unite for America, s'unir pour l'Amérique, avait tout du manifeste pro-Kamala Harris. À l'instar des précédents candidats démocrates à l'élection présidentielle, Madame Harris a bénéficié du pouvoir des stars d'Hollywood, insiste le quotidien. Les acteurs Bryan Cranston, Julia Roberts, Chris Rock ou encore la chanteuse Jennifer Lopez étaient en direct via Zoom pour apporter leur soutien. Les deux femmes ont aussi discuté de questions allant de l'immigration à l'économie, en passant par les droits reproductifs, thème central de la campagne des démocrates. Parmi les personnes interrogées, la famille d'Amber Thurman, une mère de 28 ans originaire de Géorgie, décédée après n'avoir pas reçu de soins en raison de la loi restrictive de l'État sur l'avortement, note The Hill.
Et puis Kamala Harris a été interrogée sur le fait de posséder une arme à feu.
Oprah Winfrey s'est dite surprise d'apprendre lors du débat présidentiel de la semaine dernière que Kamala Harris possédait une arme à feu, relate USA Today. Si quelqu'un entre par effraction dans ma maison, il se fera tirer dessus, a lâché la candidate dans un rire avant de se reprendre et de préciser qu'elle était en faveur du deuxième amendement tout en étant pour l'interdiction des armes d'assaut. Il n'y a pas de contradiction si on en croit le Wall Street Journal. Porter des armes n'est pas l'apanage des républicains. Historiquement, il n'était pas rare que les démocrates possèdent des armes à feu, mais beaucoup d'entre eux vivaient dans des zones rurales, rappelle le quotidien. Parti à la rencontre de nouveaux adeptes à Charlottesville, en Virginie, l'association nationale afro-américaine des armes à feu non partisanes compte environ 48 000 membres. Son fondateur Philip Smith raconte au journal que les incidents avec la police et les affrontements avec les nationalistes blancs ont stimulé le nombre des membres. Les armes à feu sont encore tabous. Certains nouveaux propriétaires libéraux disent qu'ils n'en parlent pas à leurs amis ni même à leurs proches, souligne le quotidien. Une autre nouvelle adepte, Alejandra Mendez, interrogée par le journal, trouve hypocrite que les critiques, souvent des amis progressistes, affirment leur droit constitutionnel à la liberté d'expression, mais rejettent un autre droit constitutionnel, celui de posséder des armes à feu.
Abla Jounaïdi pour la revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer françaises à présent et on vous retrouve Benoît Ferrand pour parler d'abord de la Martinique. Les commerçants de Fort-de-France ont participé hier à leur manière au combat contre la vie chère.
Plus de 80% d'entre eux ont tout simplement baissé le rideau. Ils se disent, eux aussi, victimes de la flambée des prix. Reportage Mike Irasque.
Marie a répondu à l'appel. Le rideau baissé, la commerçante comprend le mouvement de solidarité. Même si elle n'a jamais vécu une telle situation.
Pourquoi tout le monde a souffert et chaque monde a revendiqué propres affaires.
Pour cette gérante de magasin de vêtements, l'envie d'être solidaire est confrontée à certaines contraintes.
C'est compliqué aussi, hein, parce qu'il faut aussi que nous on puisse quand même avancer sans trop avoir la tête sous l'eau. Donc on veut bien être solidaire, mais on essaye de composer pour qu'on soit actif, mais en même temps qu'on ne perde pas le navire.
Surprise par tous ces rideaux baissés, cette passante comprend le mouvement et prend la situation avec philosophie.
Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de le faire comme ça, solidariser. Donc c'est vrai que moi j'ai été surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Mais tant pis, hein, je remonte chez moi et puis la prochaine fois je vais redescendre.
Une passante qui résume peut-être l'une des causes de cette action de solidarité commerçante.
C'est parce qu'eux aussi ils se rendent compte que tout est cher. Parce qu'eux aussi ils achètent, ils vendent mais ils achètent aussi. Hein.
Les commerçants de Fort-de-France vont-ils prendre une part active au mouvement de lutte contre la vie chère? Si l'appel à la solidarité a été largement suivi ce jeudi, il est encore trop tôt pour répondre à cette question.
Lutter contre la cherté de la vie, c'est évidemment très bien, mais tout casser et tout brûler, ça ne sert pas à grand-chose. Telle est en tout cas, et la plupart du temps, l'avis de ces Martiniquaises et Martiniquais à qui Xavier Chevalier a tendu son micro hier du côté de Fort-de-France.
La cause, je pense qu'elle est noble en fait, mais elle est mal défendue en fait. C'est des emplois qui sont mis de côté, c'est vrai que c'est la désolation, c'est dommage. Tous les matins, on va au boulot et on ne sait pas comment va se dérouler les choses, quoi. Donc on est vraiment dans un climat qui n'est pas serein, quoi.
On est inquiet, vraiment inquiet. On ne sait pas là où ça va nous ramener, là où ça va aller. Surtout pour nous, pour la Martinique.
Je ne suis pas contre ce mouvement, mais je vois que finalement, certaines personnes restent quand même lésées.
Je supporte la vie chère, mais il faut le faire d'une autre manière.
Sentiment d'impuissance, hein. Il y a une partie de la population qui paie, quoi, même si c'est pour la vie chère, mais voilà, on est là.
C'est du n'importe quoi. Hein. Les dégâts comme ça, c'est pas trop agréable à voir.
Bonne après-midi, Anne. Bon week-end. À lundi.
Merci, Benoît Ferrand, pour l'actualité des Outre-mer sur RFI.
Haïti, Amérique, RFI.
On parlait tout à l'heure de la situation sécuritaire politique en Haïti. Eh bien, le pays est à l'honneur en ce moment en région parisienne. Mais ces artistes, comme la pianiste Célimène Daudet, l'écrivain Guy Régis Junior, le dramaturge Vladimir Delva ou encore les graffeurs Snoopy et Vicky Onélien. Ils sont une dizaine en tout à participer au festival Sergi Soi, près de Paris donc. Le directeur artistique de ce rendez-vous, Sébastien Brie, a tenu à montrer d'autres facettes d'Haïti moins visibles dans les médias en ce moment. Écoutez.
On a décidé de mettre en avant Haïti parce que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a un partenariat, une coopération internationale avec la région des Palmes en Haïti. Or, on a la chance en Haïti d'avoir un bassin d'artistes créatifs et très dynamiques de grande qualité. Et on s'est dit que ce serait bien de les mettre en avant. Pas seulement dans les arts de la rue et du cirque, mais de proposer un panorama artistique haïtien avec plusieurs disciplines. Donc le chant, le graphe, le théâtre de rue, la performance et même un documentaire. Les enjeux que les artistes haïtiens ont à cœur de présenter, il y a l'histoire haïtienne du 18e siècle, 19e siècle, de début, donc toute la phase d'émancipation et de naissance de l'État d'Haïti. Donc ça, c'est un fait important, la décolonialisation du territoire et du pays et la naissance de ce premier État libre. Et puis, le vaudou, c'est un fil conducteur dans beaucoup de propositions artistiques qu'on a pu voir et qui seront invitées sur le festival. Même les jeunes, parce qu'on a deux jeunes graffeurs de Port-au-Prince qui viennent d'arriver. Et ils vont proposer une grande fresque murale d'une trentaine de mètres. Et la thématique qu'ils ont décidé de mettre en avant, c'est le vaudou.
Et cette fresque, elle sera dessinée en live demain pendant 2 heures, donc par Snoopy et Vicky Onélien. Ce festival, Sergi Soi, se poursuit jusqu'à dimanche, si jamais vous êtes en France et en région parisienne. Et comme chaque vendredi, notre plongée dans la campagne électorale aux États-Unis en musique, c'est jusqu'au scrutin du 5 novembre, toujours avec les auteurs de Rock'n'Road Trip. Aujourd'hui, Julien Grosso au micro de Julien Coquel-Rohem. Et vous l'aurez sûrement reconnu, on commence aujourd'hui avec James Brown.
James Brown avec une de ses premières chansons politiques qui date de 1968. Et un message un peu plus clair, « Say it loud, I'm black and I'm proud ». Autrement dit, dites-le haut et fort, je suis noir et fier de l'être.
Un message parfaitement dans le thème du jour puisque nous allons nous attarder sur une frange de l'électorat qui sera au centre de l'attention lors du scrutin prochain, l'électorat afro-américain.
Même si avec 14% de la population, les noirs américains ne constituent plus la première minorité en nombre, ils ont été supplantés par les hispaniques au tournant des années 90-2000, leur place et leur combat dans l'histoire des États-Unis les distinguent évidemment des autres groupes ethniques.
Les noirs et l'Amérique, une histoire de douleur et de lutte.
Une longue histoire de sang et de larmes, du péché originel de l'esclavage à la mort de George Floyd, 4 siècles qui trouvent une sorte de résumé dans un morceau de blues, évidemment. When I first got the blues, they brought me over on a ship. Men were standing over me, and a lot more was the whip. And everybody wanna know why I sing the blues. Well, I've been around a long time. I've really paid my dues.
Why I Sing the Blues par B.B. King, un des maîtres du genre.
Vous voulez dire un des kings du genre. Ce long morceau de 8 minutes, c'est une grande fresque imagée qui embrasse 400 ans d'histoire, de l'arrivée des premiers navires négriers sur les côtes de Virginie au début du XVIIe siècle, jusqu'à sa propre éclosion à Memphis dans les années 50.
Les années 50, c'est justement la décennie où démarre le mouvement pour les droits civiques.
Oui, car même si l'esclavage est aboli après la guerre de sécession en 1865, la ségrégation perdure dans les États du Sud, sans même parler du racisme. Le mouvement pour les droits civiques prend vraiment corps quand une certaine Rosa Parks refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery, en Alabama, en 1955.
Un geste symbolique resté dans l'histoire.
Et un acte fondateur. En soutien, un jeune pasteur, encore peu connu, organise le boycott pacifique des bus dans la même ville de Montgomery. Il s'appelle Martin Luther King.
Encore un King, et cette fois le mouvement est vraiment lancé.
Mais il faut pourtant attendre encore près d'une décennie pour que de réels changements interviennent.
It's been a long, time coming, but I know a change gonna come.
Sam Cooke avec là encore une chanson éminemment politique, Change is Gonna Come.
Sam Cooke, grande voix du gospel et de la soul, appelle au changement en 1964. Et le changement pour les droits des Noirs va finir par arriver. Coup sur coup, deux textes fondamentaux sont adoptés par le Congrès à Washington. Le Civil Rights Act en 1964, qui met fin à la ségrégation, notamment dans le logement et le travail, et le Voting Rights Act en 1965. Tous les Noirs peuvent alors enfin voter.
La loi change, mais les mentalités peinent à suivre.
Et la réalité sociale en est le révélateur.
And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
La cruauté de la loi du ghetto chantée par Elvis Presley. Elvis, encore un king, décidément.
La chanson marque le retour d'Elvis sur le devant de la scène musicale en 1969 à Memphis, la même où Martin Luther King a été assassiné un an plus tôt. La chanson est ancrée dans les mauvais quartiers de Chicago, mais elle a évidemment une portée universelle sur la réalité des quartiers pauvres des grandes villes américaines.
Où la population est très majoritairement noire.
Une population noire piégée dans la pauvreté et la violence. La chanson a plus d'un demi-siècle, mais sa description des prisons sociales de l'Amérique reste éminemment d'actualité. Un pays fracturé entre riches et pauvres, entre bien-nés et damnés, entre blancs et noirs. Un pays où de simples rues deviennent des frontières infranchissables entre deux mondes. Un pays fracturé, socialement, mais aussi politiquement.
Justement, politiquement, dans le scrutin de novembre, le vote des Afro-Américains est promis aux démocrates ?
Alors c'est moins simple que ça. Traditionnellement, les noirs votent en effet démocrates, mais l'écart se creuse désormais entre les hommes et les femmes. Les jeunes hommes noirs sont plus sensibles à la candidature de Donald Trump. Peut-être que la désignation de Kamala Harris peut inverser cette érosion, mais rien n'est moins sûr.
Assez de Kings, Kamala Harris sera-t-elle la queen de l'électorat afro-américain ? Réponse le 5 novembre. Et la semaine prochaine, on retrouvera Laurie Kenton à ce micro. À bientôt, Julien.
À très vite.
C'est ainsi que se termine RFI Midi. Merci à tous d'avoir été avec nous. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Je vous retrouve lundi 11h, temps universel. Mais vous restez sur RFI dans quelques secondes maintenant. Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint reçoit l'écrivain québécois Sébastien Dulude.
MIRA, la foire d'art contemporain latino-américain, se tient du 18 au 22 septembre à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Mira, une plateforme de découverte et une vitrine de talent pour explorer la diversité, la richesse et l'innovation artistique d'Amérique du Sud. Du 18 au 22 septembre. Plus d'informations sur mira-artfair.com. En partenariat avec RFI.